Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu à flanc de culture. Suite de la rencontre avec Sébastien Rousseau, peintre singulier, à l'espace culturel de Saint-Pierre-des-Corps. La visite dans l'exposition se poursuit. Sébastien Rousseau déroule encore son parcours d'artiste.
Non mais Philippe Drouillet, c'est vrai que ça a été un... Le jour où j'ai su que c'était un autodidacte, ça m'a donné des ailes. Parce que je pensais que justement à l'époque, les dessinateurs de BD, c'était des gens qui étaient presque intouchables pour moi. Et du coup, j'ai encore une anecdote. Je me suis retrouvé un jour à un festival de bande dessinée quand j'habitais à Dijon. Je faisais partie d'une association et je me suis retrouvé dans un festival de bande dessinée où à côté de moi, il y avait deux grands dessinateurs en plein milieu de gens qui demandaient qui faisaient des dédicaces. Et je me suis retrouvé toute la journée au milieu de ces deux dessinateurs. Et du coup, j'étais un petit peu, pareil, intimidé. Et sur la fin, je dessinais avec eux. Je faisais des dédicaces de leur album avec mes dessins. Parce qu'il y avait tellement de monde qui voulait des dédicaces que... Voilà. Et bien, je me suis retrouvé à côté de Greg. Et j'ai failli m'évanouir parce que je me suis dit, c'est quand même le dessinateur d'Achille Talon. D'un seul coup, il s'est retourné en me disant, mais arrête de faire des dessins, remplis plutôt mes albums parce qu'on ne va pas s'en sortir ce soir.
Et donc, t'as fait des faux Greg, t'as fait des faux.
J'ai fait des faux Greg. Il y a des gens qui, certainement, des jeunes, mais maintenant ils sont plus jeunes puisque ça date de 25 ans. Je pense qu'ils ont des fausses dédicaces de Greg. Et ça, je peux le confirmer. J'ai fait des dédicaces de Greg pour aider Greg à pouvoir s'en sortir ce jour-là. Autrement, on serait resté dans le salon jusqu'à 3h du matin. C'est mon passage dans la bande dessinée, quoi. Donc du coup, comme je dis, la bande dessinée, j'ai un peu abandonné parce que c'est artisanal, c'est trop contraignant. Il faut se cantonner à respecter le scénario, à respecter certaines choses. Et du coup, j'ai quasiment oublié la bande dessinée, mais je m'en sers dans mon travail d'artiste. Puis après, il y a les dessins en noir et blanc.
Ah oui, donc là, on arrive au dessin en noir et blanc. Il y a des yeux, là. C'est quoi ? C'est des yeux ?
Alors donc, ceux-là, c'est... Moi, j'appelle ça des improvisations dessinées. À chaque fois, je pars d'une petite chose comme ça.
Oui, un rond.
Voilà.
Oreille,
et je laisse aller mon esprit et je trace, je remplis, je fais des trames. Et du coup, à la fin, ben là, par exemple, c'est la femme du dictateur.
Tu pars d'une petite forme quelque part sur la feuille et après tu la remplis, tu laisses aller ta main.
Et du coup, après, en même temps que je travaille, je m'invente une histoire. Et c'est pour ça que ça s'appelle « La femme du dictateur », parce qu'on voit la femme du dictateur. D'ailleurs, j'en ai vendu un il y a 3 ans. Et là, c'était les deux chiens du dictateur qui s'est vendu dans une galerie parisienne. Chose étonnante, ça a été acheté par un Russe.
Ah bon ? Donc,
je ne comprendrai jamais cette planète, mais bon, après tout... Donc, est-ce qu'il avait compris quelque chose et du coup, il devait racheter le dictateur. La femme du dictateur, ses deux amants et son chien. Et du coup, j'ai arrêté cette série de dictateurs parce qu'un jour, je me suis dit, je vais faire un autre dictateur. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de faire Adolf Hitler. Je me suis auto-censuré. J'ai dit non, j'arrête, je ne fais plus jamais de dictateur.
Pas le point Godwin.
Il ne faut pas dépasser certaines choses. Et donc, du coup, voilà, ça s'est arrêté là. Et donc, de temps en temps, je ressors aussi... dans des croquis, la femme du dictateur.
Ah, c'est un personnage qui revient, cette silhouette-là ?
Oui, ça revient. Et puis en plus, ça a été exposé dans une galerie. Voilà ce que je voulais dire. Ça a été exposé dans une galerie à Neuilly-sur-Seine. On ne prendra jamais.
Après, c'est des formats plus grands, non ?
Parce que dernièrement, j'ai discuté avec un ami artiste qui me disait, tu sais, j'arrive plus... quand je prends un tableau d'un mètre sur un mètre, j'ai l'impression qu'il est tout petit. Donc je suis obligé d'agrandir. Donc je prends 2 mètres sur 2 mètres et ainsi de suite. Et en fait, on s'est rendu compte comment on devenait âgé. On voyait de moins en moins. Et du coup, on prenait de plus en plus grand. Parce que comme ça, au moins...
On voit quelque chose.
Voilà, au moins on voit quelque chose. Et donc ça, c'est une mouche sur le nez à Picasso. Et donc en fait, j'ai commencé par la mouche, qui est là. Et j'ai tourné tout autour. Et tout autour, je remplis le papier. En fait, moi mon truc, c'est la même chose. Et ça vient certainement de ma vie sociale. En tant qu'ouvrier, c'est que quand on a quelque chose, eh ben on ne dépense pas, on ne gâche pas. Donc moi, quand j'ai une feuille de papier, je ne peux pas laisser un truc, je peux pas laisser quelque chose de blanc parce que je me suis dit, mais tu gâches du papier. Et souvent, je garde ce sentiment quand je vois des gens qui font du dessin, qui prennent des grandes feuilles de 2 mètres sur 3 pour mettre 3 coups de couleur. Je me dis, quel gaspillage de papier. Et donc là, c'est quand même assez gros, mais alors après, là, ça devient de plus en plus petit.
Ah, tiens. Donc la feuille est plus grande, mais le trait, enfin les motifs, je ne sais pas comment tu appelles ça, sont plus petits.
Voilà, en fait, c'est... Oui, ils sont de plus en plus petits parce que j'essaye de mettre de plus en plus de choses. Et moi, ce que j'aime, c'est quand les gens regardent et se disent, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Donc, et c'est pareil, j'évite de mettre des choses qu'on connaît, de ce qu'on a l'habitude de voir. J'évite de mettre des portraits, des fleurs, des... Oui, par exemple, tu vois celui-là, par exemple, je vois là, il y a ce personnage-là, il y en a un autre ici. Je les place par instinct.
Tu les places ou ils viennent tout seuls, en fait ?
Bah, en fait, ils viennent tout seuls, parce que celui-là, par exemple, ça a commencé par ça, par cette partie-là, et c'est devenu un lézard. Donc, du coup, le dessin s'appelle un lézard sur une branche.
C'est vrai que là, il y a quand même des motifs assez végétaux. On a l'impression que c'est des coupes là, qu'il y a dans les livres de Science Nat, Coupe de la Terre ou un truc comme ça.
Voilà, c'est ça. C'est un peu... c'est un découpage de... C'est le découpage d'une image, quoi. Là, par exemple, on a l'impression qu'il y a une loupe qui va regarder... à un endroit précis. Et quand on écoute de la musique électronique en faisant ça, eh bien, on se rend compte que la musique électronique, effectivement, je pense qu'elle travaille sur notre imagination pour qu'on puisse être plus détendu. Et malgré que la musique électronique parfois est assez dure et assez répétitive, eh bien, dans la répétition, je pense qu'on arrive à trouver quelque chose un équilibre entre les deux, entre la musique électronique et le dessin. Moi, j'arrive à trouver un équilibre. Je ne peux pas dessiner si je n'écoute pas de musique. Je laisse libre cours à mon imagination. Par contre, je repasse tous les traits. J'essaye que ça soit très précis, que la courbe soit précise. Et c'est là que revient mon académisme, où il faut tout refaire correctement. J'aime bien le travail bien fait. Je ne peux pas laisser quelque chose qui n'est pas fini. Donc pour moi, il faut que ça soit net et précis. C'est une chose primordiale, le dessin. On ne peut pas faire de peinture si on n'a pas connaissance du dessin.
Et là, c'est quoi ? C'est une petite sculpture ?
Alors ça, c'est quand je suis arrivé à Tours. Je voulais visiter une exposition au musée de Tours, d'Harold Jacob, parce que ça a été aussi une autre surprise en me disant, tiens, il y a Harold Jacob à Tours, qui habite dans la région, après Léonard de Vinci. Donc je me suis dit, je vais aller voir Harold Jacob. Je suis arrivé au musée, et comme je suis une personne en situation de handicap, l'exposition était au deuxième étage, sans ascenseur, sans accès. J'ai pas pu voir cette exposition, donc je me suis un petit peu énervé. J'ai créé un petit événement qui a fonctionné quelques temps, qui s'appelait la fête de l'art dans ta rue. Et pour faire l'affiche de cette fête de l'art dans ta rue, je suis tombé sur un dessin qui représentait ce personnage. Et ce dessin, je l'avais fait en 1995, et à cette époque-là, je pouvais monter les escaliers, je pouvais même porter une charge, la monter aux escaliers tranquillement. Quand je suis arrivé à Tours, je ne pouvais plus monter aux escaliers. Et je suis tombé sur ce personnage, qui est devenu une sorte de personnage emblématique. Et j'ai un ami, Jean-Luc Tastevin, qui est sculpteur en ferraille, qui m'a demandé s'il pouvait réaliser un personnage en ferraille qui représentait ce fameux personnage qui marche de travers. Mais ce personnage qui marche de travers, je l'ai réalisé en 95. À l'époque, je marchais correctement. Et maintenant, je marche comme ce personnage. Et donc, ça a inspiré Jean-Luc Tastevin pour faire une petite sculpture. Et c'est mon arrivée, ce personnage, c'est mon entrée dans les arts singuliers. Et c'est ce personnage qui m'a apporté une étiquette d'artiste singulier.
Et d'ailleurs, c'est peut-être indiscret, mais qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe ?
En fait, j'ai une maladie génétique, j'ai une myopathie depuis mon enfance. Pour moi, c'est ce qui fait que je me suis intéressé au dessin, parce que je ne pouvais pas faire de sport. J'ai souvent été rejeté quand j'étais enfant parce que je ne pouvais pas faire de sport. Et à l'époque, dans les années 70, on n'avait pas trop d'avancée sur ce handicap, sur la myopathie, sur les maladies génétiques. J'ai été mis de côté parce que... Je marchais de travers parce que je ne pouvais pas faire de sport. Donc on me traitait un petit peu de paresseux, de feignant. Du coup, je me suis fait une idée. Je me suis fait une raison. Je me suis dit, s'ils ne veulent pas de moi, je vais essayer de me trouver quelque chose qui permettra de rentrer dans leur système. Donc j'ai pris le dessin. J'ai pris la voie du dessin, de la peinture, de la lecture.
Alors là, sous verre, sur un bureau.
J'appelle ça des dessins en milieu hostile. Quand j'ai fait ces dessins, je travaillais chez Thomson. J'étais devant des machines. Et donc, quand les machines étaient bien réglées, ben, on avait le temps de faire autre chose, en fait. Et donc, je me permettais de dessiner à côté de mes machines. Donc, tous ces dessins ont été réalisés dans une ambiance où il y a du bruit, où il y a de la graisse, il y a des gens qui courent dans tous les sens. Et c'est pour ça que je les ai appelés des dessins en milieu hostile. Et tous ces dessins ont été faits au crayon à billes, sur le coin d'une table, sur le coin d'un établi. Ceux-là, on a voulu les mettre sous verre parce que c'est une partie importante de mon travail. Et en fait, quand on regarde ça, il y a quelque chose qui me perturbe, c'est que quand on regarde ça, j'ai l'impression que je ne suis plus là.
Une impression de distance, hein. T'as l'impression voilà. Que c'est pas tes dessins ou
voilà. On a l'impression qu'en fait, c'est une partie de ma vie qui est sur cette table, en fait. D'accord. Et c'est difficile à faire comprendre parce que... Et je pense que c'est ça aussi, être artiste, c'est se dire que ce qu'on fait, ça nous appartient à un moment, puis un jour, ça ne nous appartiendra plus du tout. On arrive à prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Et c'est ça que j'admire dans ce métier-là, dans ce travail-là, c'est que certaines personnes arrivent à prendre du recul par rapport à ce qu'ils font. Au bout d'un moment, on arrive à se dire que ce n'est pas nous qui l'avons fait, parce qu'on continue d'avancer. Et c'est pour ça que je ne fais jamais la même chose. Je ne fais jamais, jamais la même chose. Je ne veux jamais faire la même chose. Et je ne comprends pas certaines personnes qui font constamment la même chose, qui répètent leur travail des années et des années. Quand je regarde ça, je n'ai pas l'impression que ce soit moi qui l'ai fait, parce que je fais d'autres choses aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis passé à autre chose.
Et est-ce que tu as le même sentiment en regardant tes autres dessins, là, par exemple les tout premiers qui avaient là-bas, l'autoportrait ?
C'est exactement pareil. C'est exactement le même sentiment. C'est-à-dire que ces dessins-là, ce que j'ai mis là, c'est quelque chose qui n'est jamais sorti. Il y a très peu de personnes qui l'ont vu, sauf celles qui sont venues ici, auront pu les voir. Mais autrement, c'est là, je ne les ai jamais montrés à qui que ce soit. Mes dessins, là-bas, personne ne les a jamais vus. C'est-à-dire que c'est un travail de 30 ans qui reste dans des pochettes. Je suis convaincu qu'il y a plein d'artistes qui ont plein de choses à montrer, mais qui ne les montrent pas parce qu'ils ne peuvent pas les montrer et parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas qu'ils les montrent. Je pense que l'art, il s'est enfermé dans quelque chose qui est inaccessible maintenant. À une époque, on aurait pu croire que l'art allait se démocratiser. Je pense que là, il ne se démocratisera plus jamais. C'est-à-dire qu'il reste bloqué sur quelque chose qui, en fait, on n'ouvre pas les portes à tout le monde. Ben effectivement, j'ai l'impression que c'est pas moi qui les ai faits. Parce que c'est jamais sorti d'une pochette, ça. Il y a très peu de personnes qui ont vu ça. Voilà, donc...
Est-ce qu'il y a des artistes tourangeaux, par exemple, avec lesquels tu aimerais travailler ou exposer, dont tu aimes le travail ?
Il y en a certains, oui, je pense qu'ils se reconnaîtront quand ils écouteront cette chose. Mais il y en a un en particulier, oui, qui... Parce que là... Une des toutes premières fois où je suis sorti dans la ville de Tours, Bernadette m'a fait visiter la boîte à livres. Elle m'a dit, viens voir. Et bien, le premier artiste que j'ai vu quand je suis arrivé à Tours, c'était Dominique Spisser. Je pense que c'est une des personnes avec qui j'aimerais bien travailler, c'est Dominique Spisser, parce qu'on a quasiment le même parcours. Quasiment identique parcours. J'ai moins de difficultés avec... J'ai moins de difficultés avec Dominique Spisser qu'avec d'autres artistes. Parce que pour moi, il sait rester simple. Pour moi, il sait rester à sa place et c'est très bien. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais bien peut-être un jour faire quelque chose d'artistique, une expo.
Donc là, si on continue, je vois après le bureau. En plus, c'est très symbolique quand même de mettre ton travail à l'usine, sur un bureau. C'est quand même pas rien.
Alors là, du coup, c'est totalement différent, parce que alors là, c'est la même histoire que Dijon, c'est la même histoire que Beaune.
La grande course vers le vide.
Voilà. En fait, quand je suis arrivé à Dijon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je me suis perdu, je me suis dit jamais plus je reviendrai à Dijon. Et il y a une quinzaine d'années, j'étais parti en vacances avec mes enfants et... sur les plages de Montpellier, Palavas-les-Flots, toutes ces grandes plages magnifiques qui regorgent de monde en été. J'ai dit à mes enfants, tiens, on va aller manger une glace à Montpellier. J'ai jamais pu rentrer dans la ville de Montpellier. À chaque fois, je tombais sur une porte de parking. Et donc, je me suis un peu énervé, j'ai reculé la voiture et on est parti. J'ai dit, Montpellier, c'est terminé. Je ne sais même pas comment on rentre dans cette ville. Et il y a l'année dernière... Il y a un événement qui a été organisé à Montpellier. C'est une association qui s'appelle Clapart et qui met des bâches accrochées entre deux maisons dans les rues de Montpellier, et puis surtout dans une rue qui est à côté de la place de la Comédie. Donc ils m'ont demandé de réaliser une toile, j'ai réalisé une toile, et j'ai réalisé le plan de Montpellier. C'est-à-dire que là, on voit la mer, on voit la partie moderne de Montpellier, dans laquelle je me suis perdu. C'est justement dans cette partie-là qu'on se perd. Et du coup, cette toile est restée tout l'été à l'extérieur. Donc elle a subi les orages, elle a subi d'ailleurs les derniers orages de grêle, on peut le voir. Et donc, ce que j'aime bien dans ce travail, c'est qu'en fait, le tableau, il a vieilli. Le tableau, il a subi les chocs de la vie courante. Et du coup, pour moi, ça devient encore plus artistique qu'une autre toile qui est parfaite. Pour moi, là, c'est vraiment mon œuvre. Là, c'est vraiment mon œuvre parce que tous les gens l'ont vue. Elle était dans la rue, elle a supporté le vent, la pluie, la grêle, la pollution. Et on la retrouve ici, à Saint-Pierre-des-Corps.
Donc on retrouve ton idée, ce que tu disais tout à l'heure, là, du besoin pour toi, enfin, de ton sens, l'artiste doit être dans la vie, en fait. Et ouais, donc là, on retrouve ça.
Oui, il doit être absolument dans la vie. On ne peut pas vivre... Je ne conçois pas la vie d'artiste isolée dans une maison de campagne ou dans un atelier.
Dans un musée, peut-être, sous cloche.
Non, le musée, c'est pas pareil, en fait. Le musée, c'est quand on n'est plus là. Donc...
Le musée, c'est pour les artistes morts, c'est ça?
Non. Pas forcément, mais il y a certains musées qui sont consacrés à des artistes blancs. C'est indéniable, faut le dire.
peindre que des choses comme ça, vu mon handicap, je ne peux peindre que des petits formats. Mais du coup, c'est à chaque fois un gros effort, parce que je ne peux pas tenir debout assez longtemps. C'est un gros effort de peindre des grands formats, dû à mon handicap, mais je le fais.
Tu peins debout, en fait?
Parfois je peins debout, parfois je peins assis. Mais la plupart du temps, quand je fais des grands formats, je suis debout. Et je me force à être debout. Moi, j'ai toujours l'impression d'avoir des comptes à rendre. Donc je peins debout. Je vais essayer de faire de plus en plus grand. Pour, comme un sportif, en fait, pour essayer de battre le record du monde de quelque chose. Maintenant, je ne veux pas battre le record du monde de quelque chose, mais on fait des petits tableaux, on se dit, on va les vendre. Bon. Et un jour, je me suis dit, oui, je vais les mettre en vente, je vais les vendre. Puis un jour, je me suis dit, mais quand tu les auras vendus, tu fais quoi après? Tu auras de l'argent, puis après tu pourras t'acheter une belle voiture, ou peut-être pas une belle voiture, mais peut-être 2-3 pains au chocolat. Non. Et tu fais quoi de ton argent?
Rien.
Le principe que je déteste par-dessus tout, de voir le prix sur une toile. Ça, je déteste. Alors du coup, je me suis dit, je vais faire des grands formats. Parce que les grands formats, c'est invendable. Parce que c'est trop grand et personne ne pourra les mettre au-dessus de son canapé. Donc il va bien falloir trouver un endroit pour pouvoir les mettre. Voilà, c'est pour ça que, en fait, je peins du grand format, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Quand on fait de la peinture comme ça, on est un petit peu mégalo. Je pense qu'on a tous un petit peu cette mégalomanie qui est en nous. Et moi, mon but, c'est de laisser une trace, pas une trace financière, mais une trace artistique de quelque chose. Donc c'est pour ça que des fois, je réalise des choses qui n'ont aucune valeur marchande, qui ne peuvent pas avoir de valeur marchande, parce que ça a été exposé dans une rue à Montpellier, entre deux maisons. Donc je pense que personne ne s'est posé la question en disant, tiens, je m'achèterais bien ça. Voilà.
Et est-ce que ça te parlerait peut-être de faire quelque chose comme art public, peindre sur des murs, dans la rue, dans l'espace public? Est-ce que ça te plairait?
Ah, ça oui, oui. Non, mais effectivement, ça me... Oui, ça effectivement, je m'approche plus du street art, mais du vrai street art. C'est-à-dire, oui, parfois j'ai envie de mettre une cagoule et puis faire comme quand j'avais 25 ans avec une petite bombe noire. Et puis, c'est vrai que j'ai plutôt envie de faire ça maintenant. Ça nous pousse à faire des choses comme ça, parce que l'art, c'est conceptualisé. Il suffit de mettre une cuvette rouge en plein milieu d'un musée qui fait 600 mètres carrés, le musée. Il faut imaginer 600 mètres carrés, mettre une cuvette rouge avec une guirlande bleue, et il y a 6000 visiteurs qui font la queue, qui payent 15 euros pour aller voir la cuvette bleue. Je dis, il faut être complètement con, quoi. Dire quelle utilité de mettre une cuvette rouge, même... Pouvoir expliquer la façon dont on a mis la cuvette rouge, parce que ça aussi, ça s'explique. Hein. Il y a des gens qui sont capables de l'expliquer. Comment on peut faire la queue pour aller voir, par exemple, Kunst? Comment on peut? Je sais pas. S'il y a des gens qui ont fait la queue pour Kunst, qui viennent me voir, je voudrais savoir comment ils ont fait. Qu'est-ce qui les a poussés à aller voir des icônes? Parce que ça, c'est la même chose. Tout le travail des autres artistes, comme moi, comme d'autres, qui font de la peinture, qui essayent d'imaginer des nouvelles images, qui essayent de travailler sur des nouveaux supports, tout ça, on les laisse un petit peu au rebut et on ne s'intéresse qu'à une certaine mode. Et ça, c'est déplorable. Ça, c'est le truc qui pour moi m'empêche de dire que je suis un artiste. Voilà. Toutes ces choses-là m'empêchent de dire que je suis un artiste. Pour moi, les années 80 et jusqu'à maintenant, rien n'a changé. C'est toujours pareil. Ça n'a pas évolué. Ça a même empiré. Je dirais que ça a même empiré. Donc, je ne peux pas me sentir... me mettre dans un coin et dire, écoutez, c'est moi l'artiste. Faites-moi confiance. Moi, j'ai vu... J'ai quelqu'un de divin au-dessus de moi qui m'a dit que j'allais peindre et que j'étais le meilleur. Non, je ne peux pas être comme ça. C'est difficile pour quelqu'un de rentrer dans une galerie. Par contre, c'est moins difficile de rentrer dans une galerie au centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps. Pourquoi? Parce que faut dire ce qu'il y a. C'est un autre monde. C'est une autre vie. Je dirais même que c'est plus démocratique. Peut-être. Je dis bien peut-être.
Bon Sébastien, si on veut voir ton travail au-delà de cette exposition qui se termine aujourd'hui, je crois que tu as un site et peut-être tu as un atelier aussi à la Morinerie, il me semble.
En fait, j'ai rencontré quelqu'un, Françoise Zoé, qui fait des meubles en carton. Je pense que pas mal de gens la connaissent surtout. Ben, elle a décidé de me louer une partie de son atelier, pas très cher, pour que je puisse travailler. Et du coup, ben, je me retrouve à la Morinerie. Voilà, et puis ben, mon prochain truc, c'est le Carré de la Création à Saint-Cyr-sur-Loire. Et ben là, c'est un petit monument historique dans lequel on fait exposer des peintres. C'est juste une maison dans laquelle il y a mes tableaux pendant 15 jours qui est allumée 24 heures sur 24. Voilà, mes prochaines actualités, c'est surtout ben, peindre des grands formats et puis ben, les arts singuliers toujours.
Et alors, un site internet peut-être, ou un blog, ou quelque chose ou...
Le site internet, oui, bah, c'est www.seb-russo.com. Voilà, et là-dessus, il y a une partie de mes informations.
D'accord. Bah, merci Sébastien, puis bah, bonne continuation.
Merci.
Fin de la deuxième partie de cette émission consacrée à Sébastien Russo, peintre, graphiste singulier. Pour cette émission, le DAHU remercie Sébastien Russo, le Centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps, Bernadette Marie Gridley. Le DAHU vous dit à bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture, il y en a pour tous les goûts.